7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Ailleurs dans le monde, pour commencer, direction l'Irak, Michael. L'Irak où des dizaines de milliers de réfugiés continuent de fuir la guerre civile et notamment bien sûr l'interminable bataille pour la reprise de Mossoul.
Et bataille contre le groupe État islamique qui résiste encore et toujours malgré l'avancée des troupes irakiennes, malgré les bombardements de la coalition. Et ils sont donc effectivement des milliers, des familles entières à avoir survécu plus de 2 ans sous le joug des islamistes, dont la plupart ont été les victimes directes des réfugiés qu'il faut évidemment loger, alimenter, soigner d'abord physiquement, mais aussi psychologiquement. Approche, vous vous en doutez, très délicate, tant ces blessures invisibles sont graves, souvent, voire insurmontables pour certains. Notre envoyée spéciale, Vanessa Descoureaux, s'est rendue dans le nord de l'Irak auprès des réfugiés qui ont fui l'enfer de Daesh et qui tentent aujourd'hui de se reconstruire. Reportage.
Haïfa n'est pas très bavarde, elle qui n'a eu personne avec qui échanger pendant la toute première année de sa captivité. Ensuite, elle a bien croisé d'autres femmes dans les geôles où elle restait. Quelques mots, à voix basse, jamais de vraies discussions, au risque de subir un nouveau cycle de violence. À 22 ans, Haïfa retrouve la liberté depuis quelques jours, mais elle économise encore ses mots, comme s'ils étaient autant de souvenirs de l'enfer qu'elle a traversé. Pour le reste, une vie de violence sexuelle, une vie d'interdit, 2 ans et demi aux mains de Daesh.
Je ne sais plus combien de fois j'ai été vendue, peut-être 8, 9, 10 fois. Mes propriétaires étaient tous des Libyens. Les journées, je me levais, je pleurais, je me recouchais, je pleurais, j'étais enfermée à clé dans une pièce. On n'avait pas le droit de bouger, pas le droit de sortir, sous aucun prétexte. J'ai à peine vu le soleil pendant plus de 2 ans, je n'étais plus de ce monde. J'étais enfermée dans cette prison, je ne sortais jamais, je suis trop fatiguée pour imaginer l'avenir, tout est fatigué en moi, mon corps, mon esprit.
C'est le cousin d'Haïfa qui lui a permis de retrouver la liberté. Il a payé une rançon à des passeurs pour la faire sortir de Raqqa en Syrie. De là, elle parvient à rejoindre la frontière turque. Elle vit désormais sous une tente, dans un camp de réfugiés dans le nord de l'Irak, n'attendant plus rien de la vie, dit-elle, sauf la seule chose qui pourrait lui ramener son âme, que sa mère et ses 4 frères soient aussi libérés du joug de Daesh. Dès son retour, Haïfa a demandé une assistance psychologique. Sur le camp où elle vit, du personnel médical est là pour écouter les victimes. Et c'est une jeune femme à peine plus âgée qu'Haïfa qui la suit. C'est Ayran. Elle aussi, elle a connu les abominations de Daesh.
Depuis que mon village a été libéré, j'y suis allée une fois. J'avais quelque chose à y faire, mais je n'ai pas pu rentrer dans ma maison. Impossible, car ma grand-mère avait l'habitude d'y être et ils l'ont tuée. Je ne peux pas imaginer cet endroit sans elle. Et aussi parce que ma cousine, dont on a trouvé le corps découpé en plusieurs morceaux, vivait dans une maison dans la même rue. Donc c'est trop difficile pour moi. Mais je ne dis rien de mon histoire à mes patientes, car leur souffrance est bien pire que la mienne. Leurs histoires sont bien plus dures que la mienne. Moi, je suis là pour atténuer leur douleur, pas l'accroître. Alors je dis rien.
Toute la journée, Ayran voit les femmes défiler dans son bureau. Pour certaines, il faut des séances entières avant d'accepter de dire un début de vérité, puis peu à peu, en dire plus, mais jamais tout, croit savoir Ayran la psychologue. L'une de ses patientes, Rihan, est sous traitement médicamenteux depuis plusieurs mois, incapable sans cela de trouver le sommeil.
Mes 5 enfants étaient avec moi au début. Puis ils ont pris un de mes garçons et une fille, ainsi que mon mari. Un survivant m'a dit que ma fille de 9 ans était en Syrie. Pour les autres, je ne sais même pas s'ils sont morts ou vivants. Je fais plein de cauchemars, je suis toujours terrifiée, j'ai peur qu'ils reviennent, je m'endors, ils sont dans ma tête, je me réveille, ils sont encore dans ma tête. Quoi que je fasse, Daesh accapare mon esprit.
Dans ce camp, qui a tout pour devenir une petite ville à moyen terme de 26 000 habitants, il y a une clinique. Elle propose un volet consacré à la santé mentale, souvent méprisée par les autorités, mal compris par la population. Une assistance pour les déplacés, mais aussi pour le personnel, lui aussi confronté à la violence du groupe État islamique. Amélie Courcault est la coordinatrice générale de la mission Irak pour Médecins du Monde.
La majorité de notre équipe, ce sont des médecins et des infirmiers, mais qui sont des
déplacés et qui vivent dans ce camp. Nous faisons aussi appel à une psychologue qui vient à peu près tous les 3 mois et qui vient uniquement pour échanger avec notre personnel et l'aider à faire face à toute cette écoute qui est parfois très très lourde au quotidien.
Dans cette région du nord de l'Irak, il y a 5 psychiatres, 2 psychothérapeutes certifiés pour une population de plus de 2 millions d'habitants.
Voilà, Irak, pensez les esprits des victimes de Daesh. Reportage difficile, hein, vous l'avez compris, mais formidable. Et reportage complet à écouter ce dimanche sur France Inter dans l'émission Interception à 9h10. Reportage signé Vanessa Descoureaux.
On parle maintenant, Michael, de cybersécurité avec ce forum international qui se tenait la semaine dernière ici en France, à Lille.
Et oui, 9e édition du FIC, le Forum international de la cybersécurité. Plus de 5000 participants venus des 5 continents et un mélange des genres assez étonnant, hétérogène. Bonsoir Margot Duquesne.
Bonsoir.
Alors vous avez arpenté pour nous les allées de ce forum avec d'un côté des spécialistes de la cyberdéfense, souvent en uniforme, et de l'autre, des hackers.
Oui, et cette année, dans les conférences, on a entendu parler d'un phénomène qui se développe de plus en plus. Il s'agit des programmes de bug bounty. Alors, bounty pour dire prime, donc littéralement, le bug bounty, c'est la prime au bug. Alors, je vous explique. On a des plateformes qui font la passerelle entre les entreprises d'un côté, qui veulent renforcer la sécurité de leur site, et les hackers de l'autre, qu'on appelle ici des chercheurs ou même des chasseurs. Parce qu'ici, le chasseur est rémunéré uniquement à la prime, donc il trouve un bug, et plus le bug est gros, plus il est payé. Et sur un bug détecté, seul le premier à l'avoir trouvé est rémunéré.
Donc, autrement dit, ce sont les entreprises elles-mêmes qui demandent à se faire hacker, c'est ça?
Oui, mais ici, c'est pour la bonne cause, c'est pour renforcer la sécurité de leur site. En plus, c'est malin parce qu'il y a tout un système de gamification, de classement, donc ça rajoute un peu de challenge, de compétition, et ça, c'est bon pour les hackers, mais c'est aussi très bon pour le business. Les États-Unis l'ont compris depuis bien longtemps, le bug bounty a été créé en 1995 par l'entreprise américaine Netscape, et depuis des années, les géants comme Facebook, Google ou Microsoft utilisent le bug bounty. Pour eux, la communauté de hackers est une mine d'or qu'il faut récompenser comme il se doit. Alors on a parlé de ça justement avec Yassir Kazar, cofondateur de Yogosha, une jeune plateforme française de bug bounty.
C'est vrai qu'il y a une image assez déformée des hackers parce qu'on confond souvent hacker et cybercriminel, mais le hacker fondamentalement c'est une personne qui est là pour aider. Quand vous avez votre disque dur qui crache et que vous êtes à 4h du matin en train de poser des questions sur un forum, les gens qui vous répondent derrière c'est des hackers. Donc ça fait des années que les entreprises travaillent avec des hackers. Récemment la tendance s'est accélérée sur ces dernières années parce que typiquement il y a le Pentagone aux États-Unis qui a lancé un bug bounty.
Voilà, on l'a bien entendu, même le Pentagone s'y est mis. Justement Margot, ça a donné quoi ce bug bounty au Pentagone?
Alors ça a donné quand même une centaine de bugs détectés, dont certains ont été rémunérés 15 000 $. Devant ce succès, d'autres ont suivi. L'US Army, la défense américaine, a lancé son propre programme de bug bounty. Et là, les hackers ont détecté des failles qui permettaient d'accéder à des sites internes du ministère de la Défense. En tout, 100 000 $ ont été dépensés pour rémunérer ces hackers.
Alors ça, c'est le marché américain, mais au niveau européen, ça commence aussi à bouger.
Alors, c'est plus lent, mais et la dynamique est en marche. Guillaume Vassaud-Houlière, qu'on a rencontré à Lille, est responsable de la nuit du hack depuis 15 ans. Il a cofondé la première plateforme européenne de bug bounty, la Bounty Factory. Et comme il le dit, l'Union européenne commence sérieusement à s'y pencher.
L'Europe a voté un budget de 3 millions pour le bug bounty de l'Europe, en fait, là au mois de décembre. Et on commence déjà à avoir des discussions autour de ça, comment on va mettre ça en place au niveau des infrastructures de l'Europe. Les mentalités ont évolué et après il y a la géopolitique sur des problématiques de cybersécurité. Il faut savoir que c'est quand même nos défenses, quand même nos sociétés. En dehors de l'aspect sécurité en soi, de trouver des vulnérabilités, il y a aussi cet aspect. Où est-ce que je vais les stocker? Quel système de paiement je vais utiliser? Qu'est-ce qui me garantit que je ne vais pas rémunérer quelqu'un qui est à un endroit ou qui travaille pour quelqu'un qu'il ne faut pas? On peut être très bon techniquement, mais après tout ce qui est juridique, tout ça, faut faire quelque chose d'intelligent.
Donc la bataille pour le bug bounty se fera aussi sur le terrain juridique, parce que même si ces plateformes travaillent avec des hackers qui peuvent habiter en Inde ou en Patagonie ou n'importe où où il y a une connexion Wi-Fi, les sociétés qui créent ces plateformes et celles qui les utilisent souhaitent conserver leur souveraineté et surtout, disent-elles, ne pas dépendre des lois d'un pays comme les États-Unis, régi, rappelons-le, par le Patriot Act.
Margot Duquesne, de retour du FIC, le Forum international de la cybersécurité. Merci Margot.
Et pour finir, Michael, direction le Chili à la rencontre de boxeurs un peu particuliers, je crains le pire.
Vous allez comprendre pourquoi. On est ici à Curicó, dans la vallée centrale du Chili, au sud de Santiago, dans la salle d'entraînement du Boxing and Weed. Jusqu'ici, c'est à peu près normal. Boxing and Win, un club sportif qui a ouvert ses portes il y a 6 mois à peine, sous la houlette de Felipe Gorón, jeune médecin généraliste de 30 ans et boxeur amateur depuis l'âge de 19. Et le club ne désemplit pas, car la méthode d'entraînement est unique. On boxe sur fond, vous l'entendez, de Muddy Waters ou de Heavy Metal. Mais surtout, avant d'enfiler les gants, pendant les 20 premières minutes d'échauffement, on fait ça.
On respire.
Oui. On fume un bon gros pétard du Mazar, une variété locale de cannabis ultra puissante. Fumer aide à surmonter la fatigue, explique Felipe, et c'est l'association parfaite, dit-il, entre un sport de contact et le calme nécessaire pour affronter un adversaire avec aisance et de bons réflexes. Bons réflexes, je suis pas sûr. Et Felipe, médecin, je le rappelle, veut aller plus loin. Il veut ouvrir d'autres clubs et surtout obtenir du gouvernement chilien la légalisation du cannabis et de la marijuana, dont seule la consommation à titre personnel est pour l'instant autorisée. Et de conclure, je cite, « Il n'y a rien de mieux que de se taper dessus comme des gentlemen et de partager un bon joint après. » Je vous laisse méditer.
Merci Michael Thébault.